Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et nous y voilà encore une fois, la dernière émission de la saison. Après celle-ci, ne reste plus que la promesse des vacances, le bleu du ciel et de la mer pour seul horizon, le poids des dossiers, des commandes, des chantiers ou des élèves, troqués pour quelques semaines contre des valises.
Peut-être même que tu as commencé à faire une petite liste, maillot de bain.
Ok.
Bouée flamant rose.
Ok.
Fourchette à saucisse.
Ok.
Tongue en mousse.
Ok.
Mais est-ce que t'as pensé à l'anti-moustique ?
Est-ce que j'ai pensé à l'anti-moustique ? Anti-moustique, 5 sur 5 en spray.
Ok.
Moustiquaire.
Ok.
Prise anti-moustique x 3.
Ok, ok, ok.
Bombe bégon.
Ok.
Spirale anti-moustique.
Ok.
Grosse bougie à la citronnelle.
Ok.
Bracelet anti-moustique.
Ok.
Lampe à photocatalyse tueur d'insectes.
Oui, ok.
Raquette anti-moustique.
Moi, ok, j'adore les raquettes.
Stylo infrarouge anti-démangeaison.
Ok.
Crème au calendula et à la camomille.
Ok.
Et pour finir, DEET performance en bidon de 2 litres.
Ok, mais quand même, ça coûte pas un peu cher tout ça ?
256 € et 34 centimes. Hors de question que les moustiques aient notre peau. Kiwis Pacem Parabellum.
Quoi ?
Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et pour ça, rien n'est trop cher.
Alors, si tu veux tout savoir, Lucie, la dernière étude internationale coordonnée par les scientifiques de l'IRD, du CNRS et du Muséum National d'Histoire Naturelle a chiffré le coût économique mondial des moustiques vecteurs de la dengue, du chikungunya et du virus Zika entre 1975 et 2020.
250 multiplié par 360 fois 45, je calcule.
Non, laisse tomber. Ça fait 94,7 milliards de dollars ou 88 milliards d'euros. Et encore, apparemment, c'est sous-estimé. Et si tu veux en savoir plus, nos deux invités du jour ont justement participé à cette étude. Et avec nous dans le studio, nous avons Frédéric Simard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheur à MIVEGEC pour maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution et contrôle. Bienvenue dans Allume la science.
Merci.
Et Jean-Michel Salle, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes chercheur au CEM, le Centre d'économie de l'environnement de Montpellier.
Absolument.
Bienvenue dans Allume la science.
Merci.
En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à MIVEGEC justement pour visiter la collection ARIM pour arthropodes d'intérêt médical. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors, votre étude très sérieuse, contrairement à notre lancement, porte donc sur deux espèces de moustiques. Aedes aegypti et Aedes albopictus. Quand c'est pas de l'anglais, c'est du latin. C'est terrible. Alors, on connaît mieux ce dernier-là sous le nom de moustique tigre. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Où est-ce qu'on le trouve ? Votre étude, elle couvre 166 pays. Est-ce que ça correspond à leur aire de répartition ? Frédéric Simard.
Oui, à peu près. C'est des moustiques qui sont répandus... Dans le monde entier, qui continue à envahir de nouvelles zones. Ils ne sont pas présents partout ensemble. Il y a certains endroits où il n'y en a qu'un des deux. Par exemple, ici, en zone tempérée, on n'a que le moustique tigre Aedes albopictus. L'Aedes aegypti, lui, est cantonné à la zone intertropicale, où il est quasiment partout.
Alors, quels sont leurs besoins, tous les deux, leurs conditions de vie ?
C'est des moustiques essentiellement urbains. Ce n'est pas des moustiques qu'on va trouver dans les zones naturelles. On parle de deux espèces de moustiques sur plus de 3500 qu'on connaît et qui sont décrites. C'est des moustiques très domestiques qui vont pulluler dans nos villes et nos villages.
Alors, votre étude, on l'a dit tout à l'heure, elle s'étale sur 45 ans, entre 1975 et 2020. Est-ce qu'on n'avait pas de données avant ça, Jean-Michel Salle ?
Alors, il y avait énormément de données avant. D'ailleurs, notre étude n'est pas une étude originale en soi, mais une étude revue de littérature, c'est-à-dire qui s'est basée sur toutes les études qui ont pu être recensées sur la période que vous avez décrite, c'est-à-dire 1975-2020, pour arriver à essayer de faire de l'agrégation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut sommer toutes ces études pour avoir une vision agrégée, totale, du coût social à l'échelle mondiale de la dissémination de ces moustiques et des maladies qu'ils transmettent.
Alors ces moustiques, justement, le moustique tigre Aedes albopictus, on le retrouve en France. Depuis quand est-ce qu'il est arrivé ici ?
Il est arrivé en 2004 par la frontière italienne et puis depuis, il se répand dans l'Hexagone. Hein, on parle de la France hexagonale, hein, sinon à La Réunion, il y est depuis plus de 100 ans, par exemple. Et cette année, en 2023, il a complètement traversé la France du sud vers le nord. Il a atteint la Normandie cette année, Paris un peu plus tôt. Donc voilà, il commence à être présent vraiment partout.
Est-ce qu'on peut dire un petit mot de la façon dont il est arrivé ? On parle de quoi ? De mondialisation, de réchauffement climatique ? C'est quoi les enjeux ?
C'est la mondialisation, c'est nous qui les avons distribués, ces deux moustiques. Hein. Aedes aegypti, ça date du commerce triangulaire. Et puis Aedes albopictus, c'est beaucoup plus récent. C'est la mondialisation des échanges. On a trimballé ces œufs avec nos marchandises.
Ah, donc rien à voir avec le changement climatique, comme on pourrait le penser. Alors.
Rien à voir avec le changement climatique, si ce n'est que le changement climatique va favoriser son installation et puis sa pullulation une fois qu'il est bien installé. Mais ce n'est pas le changement climatique qui est responsable de cette invasion biologique.
Et juste une petite précision, Aedes aegypti, on le trouve en France ou pas ?
Non, d'accord. Il est dans la zone intertropicale uniquement.
Alors si vous avez choisi de vous intéresser donc, à ces deux espèces de moustiques en particulier, c'est qu'ils transmettent des virus, donc la dengue, le chikungunya, le virus Zika. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de ces maladies et de leur fréquence dans le monde pour commencer, Frédéric Sima ?
C'est des maladies qui sont effectivement en pleine expansion actuellement. Il y a eu une alerte de la PAO qui est l'OMS pour l'Amérique du Sud très récemment, avec plus de 8 millions de cas de dengue qui sont documentés depuis le début de l'année. Donc c'est quelque chose, c'est du jamais vu, c'est mondial, c'est pas uniquement un risque qui progresse, mais c'est des vraies données sur la dengue qui progresse. Le Zika est apparu en 2015 avec des épidémies fracassantes. Il y a toujours de la transmission quelque part dans le monde de dengue, de Zika, de chikungunya, et ça augmente.
Alors, en France, si on peut en dire un mot, depuis le début de l'année, plus de 2600 personnes ont déjà importé la dengue donc, sur le territoire métropolitain. Est-ce qu'on a déjà des foyers autochtones cette année ? Est-ce qu'on en a déjà eu ?
On n'en a pas encore cette année. Les populations de moustiques tigres sont seulement en train de se reconstituer après un printemps qui n'a pas été super favorable pour eux, mais l'été s'annonce chaud. Et donc on n'a pas encore de retransmission, mais effectivement, puisqu'il y a de la circulation de ces virus dans le monde entier et puis qu'il y a un gros afflux, un gros transfert de gens qui importent ce virus chaque jour, il y a un vrai risque. L'année dernière, en 2023, on a eu 45 cas de dengue autochtone, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas bougé, qui sont infectés là où ils étaient, là où il y a du moustique tigre. L'année d'avant, c'était 65 cas. On a à chaque fois des petits foyers. Ce n'est pas des cas uniques dispersés, mais c'est des petites micro-épidémies. Il faut s'attendre à ce que ça se reproduise chaque année, effectivement.
Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de votre étude avec une question pour vous, Jean-Michel Salle. Vous êtes intéressé aux coûts donc, liés aux moustiques envahissants et aux maladies qu'ils transmettent. De quels coûts est-ce qu'on parle ? Est-ce que c'est les coûts de santé ou est-ce que c'est plus divers que ça ?
C'est plus divers que ça, mais la première distinction à introduire, c'est entre les coûts des dommages, c'est-à-dire ceux que la société a à supporter du fait de le développement de ces espèces et des maladies qu'elles transmettent, et d'autre part, les coûts que la société, à titre préventif, met en œuvre pour ce qu'on appelle les coûts de management, pour anticiper les problèmes et éviter qu'ils soient trop graves. Alors, dans le cas particulier d'une espèce qui transmet des maladies, La catégorie dommage elle-même peut être scindée en deux parties, c'est-à-dire les coûts liés à l'absentéisme, au fait des gens qui sont malades, la souffrance, si on peut l'évaluer, c'est une question un peu spécifique, mais d'autre part, tous les coûts supportés par le système de santé qui va devoir s'adapter, traiter les gens, parfois sur de longues périodes, je pense qu'on va en reparler. Et donc, de ce point de vue-là, les coûts supportés par le système de santé, une fois que l'épidémie s'est déclenchée, sont assimilés à des coûts de dommages, alors qu'en fait, ce sont des coûts de politique publique qui vont viser à limiter les conséquences des dommages.
Est-ce que vous êtes intéressé aux coûts de prévention, peut-être pour éviter la transmission des maladies ?
Oui, dans les études qui ont été recensées, un certain nombre portent sur des coûts de prévention. Souvent, d'ailleurs, les coûts de prévention sont dans les mêmes études liés aux coûts des dommages. Mais un des résultats principaux de l'étude, c'est que les coûts de prévention, les coûts de management sont à peu près 10 fois inférieurs aux coûts des dommages. Ça veut dire qu'on investit 10 fois moins dans la prévention et l'évitement des problèmes que dans le fait de les supporter et toutes les conséquences que ça a pour les gens et pour le système de santé qui les prend en charge.
Alors pour cette analyse, donc vous avez commencé par vous pencher sur la base de données Invacost, une base de données publique complète sur les coûts économiques signalés, donc des invasions biologiques dans le monde. Elle vient d'où cette base de données et comment vous l'avez utilisée ?
Alors cette base de données a été constituée initialement par un groupe de chercheurs constitué par Franck Courchamp, un écologue de la région parisienne, et d'un de ses post-docs, Christopher Diagne, qui aujourd'hui est en poste à Montpellier, donc il aurait pu se joindre à nous aujourd'hui s'il avait été disponible. Et donc ils ont commencé à constituer une base de données, c'est-à-dire à recenser tous les travaux qui ont été publiés sur le coût des espèces invasives dans le monde et à les classer, en les rendant utilisables, c'est-à-dire d'une part en les homogénéisant, en ramenant tout à une évaluation dans la même monnaie, ramenée à la même date, hein, parce que des dollars en 1975, ce n'est pas la même chose que des dollars en 2020, et des coûts supportés au Brésil, il faut d'abord les mettre en dollars, parce qu'au moment où ils arrivent, ils ne sont pas en dollars. Et donc cette base a été constituée progressivement, et aujourd'hui, elle est en ligne, et l'idée, c'est qu'elle soit auto-alimentée. C'est-à-dire, en gros, des gens qui produisent de nouvelles données peuvent alimenter la base avec un certain nombre de collègues qui surveillent que les nouvelles entrées sont effectivement les mêmes, enfin, dans le même format que les précédentes, de façon à ce qu'on puisse les agréger et les comparer simplement.
Alors, vous avez ensuite complété cette base de données avec des données obtenues à partir d'une recherche systématique de la littérature scientifique qui a été publiée sur les impacts économiques de ces espèces d'Aedes et des virus pathogènes humains qu'elles transmettent. Ça représente combien d'études, ça, Frédéric Simard ?
En termes de nombre d'articles qui ont été analysés, il y a plusieurs milliers d'articles qui ont été screenés. Ensuite, le filtre a été rétréci sur une centaine d'articles qui ont été là, analysés en profondeur pour identifier les bonnes données.
Et ça vous a pris combien de temps, cette identification ?
Sur la partie moustique uniquement, ouais. Ou surtout Invacost ? Sur la partie moustique, ça a pris 3 ou 4 ans.
Alors, au sein de chacune de ces catégories, donc, vous avez examiné comment les coûts sont répartis entre les prestataires de santé, les individus ou les ménages et la communauté. Alors, qui paye le plus lourd tribut, Jean-Michel Salles, pardon.
Donc, si vous regardez l'article, c'est clairement le système institutionnel de santé qui supporte le coût principal. Mais en fait, il faut intégrer que quand on fait ce genre de travail, il y a une espèce de biais méthodologique qui fait qu'on repère d'autant mieux les coûts qui ont été correctement rapportés. Or, les coûts liés au système de santé, en général, ils sont assez bien rapportés parce que les institutions qui payent ont besoin de se justifier et d'expliquer. Enfin, ce sont des coûts assez bien rapportés, alors que la souffrance des individus, les problèmes d'absentéisme ou dans des maladies où il y a très peu de prise en charge, c'est très mal rapporté. Donc le fait que dans l'étude, les coûts supportés par les institutions du système de santé soient dominants n'implique pas qu'ils le soient absolument dans le monde parce que c'est ceux qui sont le mieux rapportés et d'autres le sont moins bien. Et donc le coût total, même si vous avez mentionné un total d'à peu près 90 milliards d'euros, en fait, il faut sans doute le multiplier au moins par 3 ou 4 pour avoir une idée de qu'est-ce qui a vraiment été supporté par la communauté mondiale à ce sujet, mais avec des tas d'endroits où il n'y a pas eu d'études ou bien ça a été des études partielles qui ne rapportent qu'une partie des coûts réellement supportés.
Alors au final, entre la dengue, le chikungunya et le Zika, le total cumulé, vous venez de le dire, il est sûrement bien supérieur à ces 95 milliards de dollars. Mais est-ce qu'on sait dans l'ordre laquelle de ces trois maladies, Frédéric Simard, a les coûts les plus importants ?
80% des coûts, c'est la dengue. Parce que ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle est transmise. Chikungunya, c'est l'émergence en 2005, Zika en 2015. Ça a multiplié par 14 les investissements qui ont été rapportés. Mais l'essentiel du coût, par la distribution géographique et l'ampleur de la maladie, c'est sur la dengue.
Alors pour Zika et le chikungunya, vous parlez du coût des séquelles. Vous pouvez nous en dire quelques mots de ces séquelles ?
Absolument. Pour chikungunya... Pour la dengue, la maladie se traite assez rapidement à différents niveaux de gravité qui vont coûter plus ou moins cher, mais il n'y a pas de séquelles à la dengue. Et puis c'est une maladie qui peut être mortelle. Chikungunya et Zika, les atteintes sont différentes. On a une phase comme la dengue au départ, et après on peut avoir des séquelles, des atteintes articulaires par exemple, ou des paralysies qui ont été documentées pour chikungunya, avec des atteintes articulaires qui peuvent durer plusieurs années après avoir été infecté. Ça, ça va générer des incapacités de travail, ça va générer des nécessités de traitement, de prendre des médicaments sur le long terme. Ça a un coût pour le système et pour les ménages. Et puis le Zika, une des atteintes spécifiques qui a été rapportée, c'est sur le fœtus chez les femmes enceintes, qui fait des bébés microcéphales. Et donc là, c'est un traitement, c'est une prise en charge extrêmement lourde sur 30 à 40 ans. Donc voilà, c'est des coûts supplémentaires de séquelles sur le long terme. C'est pas juste du one shot pour ces maladies-là.
Zika a été particulièrement documenté au Brésil. Je me souviens d'avoir vu des expositions, des expos photos à Perpignan notamment, qui étaient très impressionnantes. Quels sont les pays les plus touchés par chikungunya et Zika ?
Actuellement, c'est l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, le Brésil et l'Asie également. L'Inde a été énormément touchée aussi, en particulier par la dengue.
Et on sait par exemple pourquoi l'Afrique est moins touchée que l'Amérique du Sud ?
Alors, c'est pas forcément moins touchée, c'est surtout moins rapporté.
Moins documenté.
On a très très peu de données sur l'Afrique, on en a peu sur l'Europe en particulier, parce qu'il n'y a pas encore vraiment ces maladies-là, mais on est en train de construire le risque avec l'expansion de ces moustiques-là. Mais l'Afrique, c'est un problème de structuration du système de santé et puis de report des coûts.
Mais est-ce qu'il existe des méthodes de prévention de la transmission pour ces maladies qui pourraient être mises en place également ?
Alors, pour prévenir les maladies, une stratégie, c'est la vaccination. Donc, il y a eu des investissements qui sont pris en compte dans l'étude, d'ailleurs, pour le développement de vaccins. Pour l'instant, il y a certains vaccins qui sont en test pour la dengue. Pour chikungunya, pour Zika, on n'a que des candidats vaccins. On n'a rien de concret en termes de vaccination pour l'instant. Et un moyen de se prémunir de ces maladies, c'est de se prémunir de la transmission, c'est-à-dire de lutter contre les moustiques. Et ça fait aussi partie des coûts qui sont rapportés et qui doivent être développés. Il y a plein de manières de lutter contre les moustiques. Il y a plein de pilotes qui sont en cours et de nouvelles technologies qui sortent des laboratoires de recherche. Il faut des moyens pour les mettre en action maintenant.
Alors, le chiffre de 94 milliards dont on parle depuis tout à l'heure, on l'a dit, il est sous-estimé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement pourquoi ?
Il y a plusieurs raisons, mais la principale qui a déjà été mentionnée par Fred, c'est le fait que beaucoup de coûts existent et ne sont pas rapportés. C'est-à-dire, s'il y a une épidémie qui survient dans un endroit où finalement ça n'attire pas l'attention, il n'y a pas spécialement de mobilisation des gouvernements ou des systèmes d'information, ça va être très peu documenté et il y a toutes les chances que l'information ne revienne jamais. Il y a une deuxième raison structurelle, c'est qu'une partie des coûts ne sont pas facilement identifiables. C'est-à-dire, Frédéric a rappelé les problèmes de séquelles à long terme ou autres, mais finalement, qu'est-ce qu'on compte là-dedans ? La prise en charge médicale, oui, mais la souffrance des personnes, ce à quoi ils ont dû renoncer, hein, ce que les économistes appellent les coûts d'opportunité, c'est-à-dire le fait que leur vie va être rétrécie parce qu'ils vivent à cette contrainte pour des fois des périodes très longues. Tout ça ne figure pas dans l'étude, pour de bonnes raisons. C'était qu'on pensait que les méthodes... D'abord, il y a peu d'études qui portent dessus, et quand elles ont été réalisées, eh bien, on n'est pas toujours sûr de leur robustesse, de leur fiabilité, et surtout du fait qu'il soit légitime de le comparer aux autres. C'est-à-dire, est-ce que c'est complètement légitime, d'un point de vue économique, de comparer des dépenses bien identifiées où quelqu'un a vraiment payé quelque chose, soit à travers le système de santé, soit à travers d'autres systèmes identifiables, ou bien simplement le fait que les gens ont renoncé à une nouvelle opportunité professionnelle, à partir en vacances ou je ne sais pas quoi. Donc, ces parties-là, ces coûts-là sont réels, mais ne sont pas pris en compte dans l'étude parce que ça ne paraissait pas méthodologiquement faisable de le faire.
Et alors, donc, on a parlé de la mondialisation comme facteur d'expansion donc, de ces maladies. La mondialisation, elle ne va pas s'arrêter maintenant. Est-ce qu'on sait justement chiffrer à quel point financièrement ça va exploser tout ça ?
Alors, est-ce qu'on le sait? Je vais me tourner vers...
Est-ce qu'on peut l'imaginer, en tout cas?
Je ne sais pas si on peut l'imaginer. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'un malade dans un pays riche coûte beaucoup plus cher qu'un malade dans un pays pauvre. Ça peut être choquant de balancer ça comme ça, sans précaution. Mais c'est une réalité liée notamment aux performances du système de santé ou au fait que quelqu'un qui travaille dans un pays riche génère plus de revenus que dans un pays pauvre. Ce n'est pas une légitime... Quand je dis ça, je ne dis pas que c'est normal ou que c'est acceptable, mais c'est une réalité. Et donc, s'il y a une épidémie de dengue importante dans un pays riche, par exemple le nôtre, eh bien c'est clair que le coût va se chiffrer avec des ordres de grandeur très importants, enfin, je peux dire en milliards, parce que je n'ai pas la moindre idée de combien de milliards. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que l'ANSES, l'Agence nationale de la santé, va sortir très prochainement un rapport dans lequel on a été impliqué, qui essaie d'anticiper quels seraient les coûts d'une épidémie qui se répandrait en France hexagonale, tant au système de santé que dans l'ensemble du système économique, à travers les impacts que ça peut avoir sur les entreprises, sur le tourisme ou d'autres choses. Là-dessus, il n'y a pas une extrapolation du coût précise, mais une tentative de description des mécanismes par lesquels il se transmettrait et donc de ce qu'on pourrait faire pour en limiter l'impact.
Alors justement, Frédéric Simard, est-ce que vous espérez avec une telle étude que ça pourrait inciter les décideurs à mettre plus de moyens sur la prévention dont on a parlé tout à l'heure ?
C'est un des messages de l'article, effectivement, c'est de se rendre compte de combien ça nous coûte en termes de compenser les pertes et les dommages par rapport à ce qu'on est prêt à investir dans la prévention et du manque à gagner qu'on a, qu'on est capable de documenter encore une fois à minima avec cette étude. Et la tendance, par contre, elle est claire, c'est une tendance à l'augmentation. Donc, si on montre bien qu'on n'en fait pas assez actuellement, si on continue à pas en faire assez, on payera de plus en plus cher.
Un grand merci à tous les deux, Frédéric Simard et Jean-Michel Salle, pour ces explications très claires. Oui, décidément, elle n'est pas facile. Alors, j'en profite pour vous rappeler ce petit adage plus que jamais d'actualité. Si tu penses être trop petit pour changer les choses, essaye de dormir avec un moustique. À bon entendeur. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Nous vous emmenons à Mivejec, justement, pour découvrir la plus grande collection d'arthropodes d'intérêt médical d'Europe, dont les spécimens proviennent de 97 pays. C'est Philippe Bousset qui nous fait la visite et qui nous présente ces adorables bestioles.
Qu'est-ce que c'est qu'un insecte vecteur ?
C'est un insecte qui transmet des maladies. Mais la spécificité, c'est que le parasite, l'agent pathogène, il a un cycle dans l'insecte. C'est-à-dire, c'est pas juste un rôle transporteur. Donc, il est indispensable pour le pathogène d'avoir ce vecteur. Donc, ça regroupe tous les insectes vecteurs qui provoquent des maladies chez l'homme ou chez l'animal. Bon, nous, c'est essentiellement l'homme. Donc, vous avez essentiellement les moustiques, les tiques, les phlébotomes, les puces, les triatomes. Enfin, j'en oublie peut-être encore.
Je vois qu'il y a écrit Orstom sur les boîtes. Orstom, c'est l'ancien nom de l'IRD. Donc, ça veut dire qu'elle remonte à longtemps. C'est...
Oui, cette collection, les plus vieux spécimens, ça date de 1935, c'est-à-dire même avant le... Même avant l'Orstom, on a à peu près, je dirais de mémoire, à peu près une centaine de pays ici. Mais essentiellement, c'est une collection beaucoup axée sur l'Afrique. En tout, dans la collection, on a à peu près, j'ai noté, 2830 espèces et dans 1268 espèces de moustiques. Donc on a à peu près le tiers des moustiques mondiaux ici. On a à peu près les 4/5 des moustiques africains.
Là, on arrive dans une pièce plus grande et effectivement, il y a des rayonnages. Et combien de boîtes il y a ici ?
À peu près 3000 boîtes et on a à peu près 600 000 individus. Parce qu'un moustique, c'est petit quand même, donc il y en a à peu près 200 à 250 qui rentrent dans une boîte.
Vous nous en montrez une boîte ?
Voilà, oui.
C'est des
réduves.
Des réduves ? Ouais. Ça ressemble à des sortes de grosses punaises ?
Non, ce sont des insectes qu'on ne trouve qu'en Amérique du Sud, essentiellement.
Donc on est face à une boîte avec un couvercle en verre. Dedans, il y a une vingtaine de pas si petites bêtes. Elles font 3-4 cm, ces punaises, c'est ça ? Et elles sont plutôt jolies, un peu tachetées. Ouais, triatoma.
Oui, triatoma. Et ça transmet la maladie de Chagas.
Et vous nous aviez dit que vous êtes taxonomiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste comme métier ?
Ça consiste à classer les êtres vivants. Donc on crée comme je vous ai dit, la classification. On crée des boîtes avec des sous-boîtes comme les poupées russes. Et la taxonomie permet de rapprocher, de mettre dans un même genre ceux qui se ressemblent Et au niveau de l'espèce, ça permet, c'est sur des différences qu'on crée des espèces, quoi, si vous voulez. Voilà, et puis tout est imbriqué. Bon, vous avez la classe, les ordres, les tribus, les familles, les genres, les sous-genres, etc. etc. quoi. Voilà, mais ça, c'est une vision humaine, quoi. C'est uniquement parce que l'homme, il aime bien ranger les choses, donc on crée des classes. Mais si vous voulez, la mode de la taxonomie, c'est un peu passé, quoi. Alors, pour faire très bref, l'histoire de la taxonomie, elle a démarré avec Linné, en 1700, je ne sais plus combien, là. Et ça intéressait personne jusqu'à ce moment où on s'est aperçu que les moustiques transmettaient des maladies. Donc la fièvre jaune, on s'est aperçu, le paludisme, etc. Donc ça, c'est au début du siècle, enfin l'autre siècle, 1900. Et donc là, d'un coup, il y a le British Museum qui a envoyé des gens pour faire des prospections dans le monde. Et c'est monté. Et actuellement, c'est un peu en désuétude, parce que bon, toutes les principales espèces d'intérêt médical sont à peu près découvertes.
Il y a des chercheurs qui viennent étudier la collection ici ?
Oui, on a des échanges internationaux avec des gens qui viennent étudier des groupes spécifiques. Ici, nous avons vraiment, on va dire qu'on est les meilleurs, entre guillemets, au point de vue faune de moustiques africains.
D'accord, donc c'est rare une collection comme celle-là ?
Celle-là, oui, c'est une des plus importantes d'Europe.
Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Ils ne sont pas rares, ces moustiques, on peut en prélever dans la nature. Donc...
Oui, mais bon, donc un autre aspect qu'on ne voit pas dans ces collections, c'est une richesse financière. C'est-à-dire, quand vous allez chercher des espèces au fin fond d'une forêt, ça coûte des sous. Donc ici, c'est beaucoup plus simple de les avoir sous la main. Ensuite, une collection comme ça, c'est bien aussi pour les étudiants, pour la formation. Ils viennent se former, à reconnaître un peu les espèces d'un point de vue morphologique déjà. Nous, on a un intérêt aussi, on développe ce qu'on appelle des identiciels, c'est-à-dire des logiciels informatiques. C'est une aide à l'identification des espèces. En faisant de la photographie de ces espèces, en regardant les caractères, etc., on arrive à construire ces clés.
Tout est numérisé ici ou...
À peu près, oui. Toute cette collection est gérée par une base qui est ARIM, quoi, qui est sur Internet. Elle est ouverte à tout le monde.
Je vois une boîte où il y a écrit Glossina. C'est les mouches qui transmettent la maladie du sommeil ? On
voilà,
peut les regarder ?
Ça. Oui, les glossines. C'est les glossines, voilà. Donc là, c'est aussi des espèces strictement africaines quoi, qui transmettent la maladie du sommeil.
C'est pas la mouche tsetse ?
Si, c'est la mouche tsetse, c'est celle-là.
C'est assez semblable aux mouches qu'on côtoie au quotidien voilà. En France.
On a des boîtes de formation également. On participe aux journées scientifiques, on a des animations, on va dans les écoles, les gens nous empruntent ces boîtes-là.
Donc là, dans la boîte, on voit quelques spécimens de l'insecte, un dessin, et il y a un petit descriptif, un petit texte qui les décrit, c'est ça ?
Voilà.
Sur la boîte de papillons, là, on a un papillon qui s'appelle Uraniidae, qui est un grand papillon qui est très beau, avec les ailes noires et des reflets vert doré. Comment on fait pour le conserver en si bon état et que ses couleurs restent aussi éclatantes ?
Mais il est à sec. On l'étale sur un étaloir, puis on le conserve à sec. Une particularité de la salle, c'est qu'il y a des taux d'humidité constants.
Il est par là ? Ben voilà, le cauchemar de plein de gens. Un moustique de 3 cm.
Comme je vous ai dit, il est inoffensif. C'est ce que l'on voit.
Alors ça, c'est des lames qu'on met sous le microscope, c'est ça ?
Oui, sous le microscope, là, parce que là, on voit qu'on ne voit rien. Et donc, c'est les génitalia dont on en parlait tout à l'heure, qui sont vraiment très spécifiques d'une espèce. Quoi. Au niveau des culex, par exemple, c'est vraiment avec ça qu'on va voir.
Donc, tout ce qu'il y a dans cette boîte, c'est des organes génitaux de moustiques ?
Voilà. On leur coupe les choses et on les monte là-dedans. C'est notre truc. On aime bien faire ça.
Et elle s'enrichit encore régulièrement actuellement, cette collection ?
Oui, au niveau des Seychelles, on a eu des nouveaux moustiques. On a aussi à Mayotte, dernièrement, on a décrit un nouveau moustique qui est proche de Aedes aegypti.
Quand vous les décrivez, c'est vous qui choisissez le nom qu'ils vont porter pour toute la communauté scientifique. Comment vous choisissez leur nom ?
Oui, alors la règle, c'est ça, c'est l'auteur qui choisit le nom. Par contre, on ne peut pas se donner son propre nom. Donc c'est le copain qui donne le nom. Tout à l'heure, on a vu le nom de Fontenillet. C'est Didier Fontenillet qui est ici. Vous avez des Brunésies. Il y a aussi des histoires d'amour au milieu.
Il a donné le nom de sa dulcinée à un moustique.
Voilà. Après, le nom, il peut être aussi décrit sur une caractéristique du moustique. Albo pictus, là, le moustique tigre. Albo blanc, pictus, dessiné, quoi. C'est qui est dessiné de blanc. Avec.
Et vous avez un moustique que quelqu'un vous a dédié qui porte votre nom ?
Oui, j'ai un moustique qui porte mon nom. Quoi. C'est Jacques Brune. Il y avait pléthore de moustiques ici, là, quand il a décrit les Uranotonia de Madagascar. Il en avait une quarantaine, il ne savait plus quoi donner. Il m'a dit, tu veux un moustique ? J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Bon, tiens, allez.
Et comment il s'appelle au final ?
Eh bien, il s'appelle Boussessi. Voilà, on latinise le nom en général.
Pas d'invité des trois dernières minutes cette semaine, mais j'en profite tout de même pour vous parler de l'exposition qui se tient au Jardin des Plantes depuis le 25 juin et jusqu'au 25 juillet pour célébrer les 40 ans du CIRAD. Elle s'intitule « Préserver et nourrir la planète, le vivant grand format, allez-y, c'est magnifique ». Allume la science, c'est fini pour cette année. On se retrouve bien sûr à la rentrée. D'ici là, comme toujours, pensez à débrancher, mais pas avant le 7 juillet. Bel été à tous et toutes.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.